Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, Mohamed Ben Salman jugé responsable de la mort du journaliste Jamal Khashoggi, mais épargné par Washington. Les États-Unis sanctionnent plusieurs personnalités saoudiennes au lendemain du rapport de la CIA, mais pas donc le prince héritier.
Nous irons en Birmanie également dans les prochaines minutes, Loïc, avec de nouvelles manifestations à Rangoon, manifestations sous étroite surveillance policière, surveillance et même répression, nous dira Juliette Verlin.
Et puis la pandémie de Covid-19, elle fait des ravages au Brésil, vous l'entendrez à travers le reportage de notre correspondant, tandis qu'en France, Dunkerque et Nice expérimentent une nouvelle mesure pour tenter de freiner le virus, le confinement le week-end.
Les journaux en français facile.
La colère tout d'abord de l'Arabie Saoudite au lendemain de la publication du rapport du renseignement américain sur la mort de Jamal Khashoggi. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman y est jugé responsable de l'assassinat du journaliste. C'était en 2018.
Et des accusations que Riyad rejette totalement. En plus de ce rapport, Washington annonce des sanctions contre plusieurs responsables saoudiens. Pour autant, l'administration Biden n'a pris aucune mesure contre le prince, ce que dénoncent plusieurs élus américains. Écoutez la réponse d'Anthony Blinken, c'est le secrétaire d'État américain.
La relation que nous entretenons avec l'Arabie Saoudite est importante. Nos deux pays partagent des intérêts stratégiques et nous restons attachés à la défense de la royauté saoudienne. Mais on veut aussi s'assurer, comme l'a indiqué le président américain, que cette relation reflète nos principes. Les sanctions prises n'ont pas pour objectif de rompre la relation, mais de la rééquilibrer, d'être davantage aligné avec nos intérêts et nos valeurs.
To be more in line with our interests and our values.
Les propos du secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Toujours concernant les États-Unis, la Chambre des représentants a donné son feu vert au plan de relance de Joe Biden.
Un plan qui prévoit, entre autres, plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'accélération du rythme des vaccinations contre le Covid-19, ainsi que le déploiement de tests. Si nous agissons avec détermination, rapidité et audace, nous pourrons enfin reprendre le dessus contre ce virus et relancer notre économie. Voilà ce que dit le président démocrate qui doit maintenant obtenir le feu vert du Sénat, Zéphirin.
Et dans l'actualité de ce samedi encore, le coronavirus qui continue de faire des ravages au Brésil où la situation sanitaire se dégrade rapidement.
Et le nombre de décès est passé en quelques jours de 1000 à 1500 par jour. Les hôpitaux de plusieurs grandes villes sont saturés. Certains épidémiologistes affirment même que le Brésil est en train de perdre la bataille contre le Covid. À São Paulo, les précisions de Martin Bernard.
À São Paulo, le plus grand hôpital privé est plein à 104%. Cela veut dire que non seulement les salles en soins intensifs sont pleines, mais qu'il y a une liste d'attente. La situation est également très tendue dans le service public. À Natal, dans le nord-est, certains patients doivent attendre dans des ambulances pendant plusieurs heures avant d'être hospitalisés. Dans le sud, la situation s'est brutalement aggravée et le confinement a été décrété dans plusieurs villes, ce qui met les épidémiologistes en état d'alerte, comme Jezeim Orellana à Manaus.
Cette bataille est perdue, sans aucun doute. Le Brésil n'arrive à régler ni le problème de transmission du coronavirus au sein de la communauté, ni à réaliser une campagne de vaccination de masse.
Moins de 5% de la population a été vaccinée en 6 semaines. Il n'y a toujours pas de campagne officielle pour expliquer à la population les bienfaits de cette vaccination. À Manaus, qui a été le théâtre de graves crises en raison du manque de structure et de l'apparition d'un variant amazonien du virus, Jezeim Orellana craint désormais que la situation se répète dans l'ensemble du pays.
Le Brésil est malheureusement en train de devenir ce qu'était Manaus il y a un peu plus d'un mois. Le Brésil est en train de se transformer en une grande Manaus pour cause de négligence sanitaire.
négligence sanitaire.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Le coronavirus qui touche également, mais dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande, où deux cas ont été signalés à Auckland. La ville va être reconfinée pour une semaine à compter de demain, dimanche. Reconfinement qui intervient quelques jours avant le lancement de la Coupe de l'América, considérée comme l'une des plus prestigieuses épreuves sportives au monde.
Et puis en France, Jean Castex demande de son côté au préfet des 20 départements où l'épidémie menace de flamber, de renforcer les contrôles des mesures en vigueur, dont les couvre-feux.
Mais l'objectif est de tout faire pour éviter un confinement national, insiste Matignon à l'issue d'une réunion par visioconférence au moment où de nouvelles restrictions entrent en vigueur à Nice et à Dunkerque, en l'occurrence un confinement le week-end.
Le journal en français facile.
Avec dans l'actualité dans le monde ce samedi aussi la situation en Birmanie et ses nouvelles manifestations à Rangoon.
Une journée de manifestation pas comme les autres, puisque jusqu'à maintenant la capitale birmane restait épargnée par la répression policière qui touche le reste du pays. Changement de situation donc aujourd'hui, alors que les Birmans préparaient une journée de protestation pacifique. Sur place, la correspondance de Juliette Verlin.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la contestation, la police a harcelé les manifestants toute la journée. Dès 9h ce matin, les policiers les ont empêchés de se rassembler et les ont dispersés avec des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. La police diffusait un message en haut-parleur demandant aux manifestants de ne pas se rassembler à plus de 5 personnes, un rappel soudain de la loi martiale instaurée il y a 2 semaines et qui avait été largement ignorée. Des arrestations ont lieu par dizaines, y compris au moins 3 journalistes locaux. Miatsu, une jeune étudiante en art, expliquait avoir l'impression que la police jouait au chat et la souris avec les manifestants. On a vu effectivement la police charger des rassemblements sans raison, les policiers courir après des manifestants qui s'enfuyaient dans des rues adjacentes ou arrêter et frapper des gens sans distinction. Les images font le tour des réseaux sociaux et tout le monde se demande pourquoi la police a décidé de réprimer la contestation pacifique de façon si chaotique. Une journée de grève générale est prévue demain, presque un mois après le coup d'État, et pour Miatsu, on peut s'attendre à subir une répression similaire. Juliette Verlin, Rangoon, RFI.
À l'écoute de Radio France Internationale, il est 23h07 à Moscou. On se rend dans la capitale russe pour refermer ce journal. Moscou, où des milliers de personnes étaient venues déposer des fleurs aujourd'hui au pied des murs du Kremlin.
Et précisément à l'endroit où Boris Nemtsov a été assassiné il y a 6 ans. Le commanditaire du meurtre n'est toujours pas connu, même si l'enquête se poursuit. La procession s'est déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues à Moscou. Les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revoix.
De tous âges, de tous milieux sociaux, les partisans de Boris Nemtsov ont défilé une bonne partie de l'après-midi sur le pont où il a été assassiné. Les uns après les autres, les membres de cette procession sont venus déposer des fleurs à l'endroit où l'ancien ministre de l'économie de Boris Yeltsin a perdu la vie, le corps transpercé par 4 balles à 200 mètres des murs du Kremlin. Au total, près de 8000 personnes, dont plusieurs diplomates occidentaux, ont rendu hommage à Boris Nemtsov, bravant les mises en garde des autorités qui avaient, durant la semaine, interdit le rassemblement avant de se raviser. Une constante dans les témoignages recueillis sur place, le sentiment que les choses changent en Russie, que la société souffre de ne pas avoir son mot à dire dans les choix politiques du pays, mais surtout qu'une proportion croissante de Russes n'ont plus peur d'exprimer leur mécontentement. Contrairement à ce qui s'est passé lors des manifestations de soutien à Alexei Navalny en janvier dernier, les forces de l'ordre ont surveillé le cortège sans procéder à aucune interpellation. Reste à savoir si ce sera le cas encore ce soir, à 23h31, heure à laquelle Boris Nemtsov a été abattu il y a 6 ans et où ses partisans ont prévu un nouveau rassemblement. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et les sports avec la suite de la 27e journée de Ligue 1.
Et la victoire du Paris Saint-Germain à Dijon. Dijon dernier du classement et qui n'a pas résisté aux Parisiens qui l'emportent 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Le PSG qui revient à 1 point du leader Lille. À noter également que Metz est allé gagner à Bordeaux un peu plus tôt le score 2-1 Zéphirin.
Et puis il y avait du rugby également aujourd'hui à l'agenda sportif.
Avec le tournoi Destination, le Pays de Galles prend la tête de la compétition en battant l'Angleterre, pourtant tenante du titre 40-24. Un peu plus tôt, l'Irlande a facilement dominé l'Italie sur le score de 48-10.
Le club RFI, Eric.